Les podcasts de France Souveraine. Aujourd'hui, Guy Trollier.
Bonjour à tous, chers auditeurs de France Souveraine. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau podcast et accueillons M. Guy Trollier. Bonjour M. Trollier.
Bonjour Frédéric.
M. Trollier, vous êtes islamologue et spécialiste du monde musulman. Vous êtes né au Liban et y avez vécu pendant 26 ans. Après plusieurs années au Moyen-Orient, vous êtes rentré en France et vous devenez formateur islam et radicalisation, laïcité et approche des monothéistes et coach interculturel pour préparer les expatriés à la vie au Moyen-Orient. Vous êtes diplômé d'un master en sciences des religions de l'Institut des études de religion et de la laïcité et avez été doctorant à l'école pratique des hautes études effectuant des travaux de recherche sur l'islam des origines.
C'est bien ça.
Bienvenue Monsieur Trollier. Nous sommes ici pour discuter de l'islam. Et ma première question concerne la signification du mot islam, donc, qui signifie soumission. De quelle soumission s'agit-il et quelle est son origine?
Alors, il y a l'acceptation du concept de soumission qui est... normalement, la définition et l'explication exacte du mot islam, sachant que, et je ne développerai pas plus longuement, il y a des personnes qui disent que l'origine du mot islam est liée au mot paix en arabe, salam, shalom en hébreu. Or, ce n'est pas exactement ce dont il s'agit. Il s'agit de quoi ? Il s'agit tout simplement d'une soumission à la volonté de Dieu, qui a été manifestée dans le Coran, puis dans les développements théologiques par la suite, aussi bien dans les paroles du prophète que les textes théologiques, de la soumission d'Abraham à Dieu, ou pour ceux qui le savent, nous avons la Bible qui nous raconte qu'un jour Dieu a souhaité tester la loyauté, la soumission d'Abraham, et lui a enjoint, alors je passe les détails, la différence entre le texte coranique et les textes bibliques, mais en résumé, Dieu ayant voulu tester la loyauté d'Abraham, va lui enjoindre de sacrifier son fils unique, sachant que ce fils unique, entre les traditions juives et chrétiennes d'un côté et la tradition musulmane, ne sont pas d'accord sur ce fils. Pour les premiers, il s'agit plutôt d'Isaac, et pour les seconds, il s'agirait d'Ismaël, mais sans que la question ne soit vraiment tranchée au sein même de l'islam. Donc, il est dit dans le Coran qu'Abraham était ami fidèle de Dieu, le terme arabe est Khalil, qui est d'ailleurs un prénom assez courant, et Dieu lui enjoint donc de sacrifier ce fils, et dans les trois traditions religieuses, au moment où Abraham s'apprêtait à commettre l'acte sacrificiel, le geste sacrificiel, d'égorger son enfant, Dieu l'arrête, lui suggère de sacrifier un bouc à la place de l'enfant. Et s'agissant de l'islam, nous avons là l'explication de la fête, de l'origine de la fête la plus importante en islam, qui est donc la fête du sacrifice, Eid al-Adha, puisqu'elle commémore ce geste sacrificiel d'Abraham qui, à nouveau, tel que le Coran nous le dit, était soumis à Dieu, musulman, et qu'il n'était ni juif ni chrétien, mais le Coran utilise pour lui un qualificatif très énigmatique, qui est un mot en arabe, probablement d'origine syriaque, qui est le terme « hanif », et qu'on a l'habitude dans la tradition musulmane d'expliquer comme étant l'origine, ou plutôt le monothéisme originel pur que Abraham pratiquait et qui était donc l'adoration du Dieu de la création. Voilà habituellement l'explication et le rattachement du mot islam à ce sacrifice d'Abraham.
Très bien, merci. Comment est né, pourriez-vous nous expliquer comment est né l'islam, s'il vous plaît ?
Alors, c'est une longue histoire, avec des variantes, bien entendu, mais je vais essayer de faire le plus bref possible. Alors, il y a, avant que je ne relate la naissance de l'islam, je voudrais faire une remarque introductive qui est qu'il y a deux visions qui se présentent en ce qui concerne la naissance de l'islam, les débuts de l'islam, la figure prophétique, celle de la tradition musulmane et celle que l'on appelle habituellement l'approche historico-critique, qui regarde donc les textes, surtout les textes musulmans, avec une certaine distance, car tous ces textes sont nés assez tardivement, bien après la mort du prophète, à minima un siècle après sa mort. Donc la tradition musulmane nous dit la chose suivante: le prophète serait né à la Mecque, qui est donc un endroit où on sait qu'il y a une source, d'ailleurs cette source existe toujours, et il serait né à cet endroit vers l'an 570. Et il serait mort en 632, là aussi il y a un débat sur la date. Au cours d'une des retraites qu'il faisait ou qu'il avait l'habitude de faire dans le désert, où il se retirait pour jeûner, prier, méditer, la tradition musulmane nous dit que l'ange Gabriel lui apparut et lui enjoignit de réciter le Coran. Alors là aussi, je vais faire bref, mais s'il y a lieu, on pourra revenir sur les détails et les variantes. Le prophète fut pris de peur, panique, parce qu'il croyait qu'en fait, il était possédé par un démon avec cette apparition, et il répondit à cette apparition qu'il ne pouvait pas, qu'il ne savait pas lire, et cette apparition, en l'occurrence l'ange Gabriel, va lui intimer l'ordre à deux reprises, donc à la troisième, de lire et de réciter le Coran. Et c'est ainsi que fut le début de ce que l'on appelle la révélation. Donc, le prophète va recevoir la mission de proclamer la parole de Dieu qui va lui être apportée par l'ange Gabriel aux humains. Sur un plan assez anecdotique, que peu de gens, même au sein de l'islam, le savent, au bout de cet épisode, le prophète, comme je l'ai dit, fut pris d'une peur panique et donc il va se réfugier auprès de sa femme, sa première femme, Khadija, et il va lui raconter ce qui s'est passé. Et sur ce, Khadija va l'emmener voir un cousin paternel à elle, quelqu'un qui appartient à cette même tribu de Quraysh à la Mecque, cousin paternel qui était dit dans les écrits arabes comme ayant été juif avant de devenir chrétien et qui était un érudit dans les textes sacrés, dans les livres sacrés, donc la Bible, Bible juive peut-être, Bible chrétienne, on n'en sait pas plus. Et quand le couple rendit visite à cette personne qui s'appelait Waraka ibn Nawfal, il leur dit « N'ayez crainte, mon cousin, puisque tout le monde est cousin bien entendu dans la culture arabo-musulmane, ou frère, mon cousin n'est pas possédé, c'est bien l'envoyé de Dieu qu'il doit être, avec la nouvelle parole qu'il doit prêcher à l'humanité, donc le nomos, c'est-à-dire la loi de Dieu qu'il devra diffuser auprès des humains. Donc à partir de là, le prophète va commencer sa prédication. Un certain nombre de personnes vont le rejoindre et vont le suivre, mais il sera rejeté par sa propre tribu à la Mecque. Comme dit le dicton, nul n'est prophète en son pays, à tel point qu'il devra quitter la Mecque et se réfugier à Médine, donc qui est une oasis à quelques 260 km au nord de la Mecque, où il va s'installer, dans un premier temps accueilli favorablement, nous dit la tradition musulmane, par les trois tribus juives qui occupaient et qui vivaient à Médine, avant qu'elle ne se retourne contre lui, visiblement l'ayant pris pour un prophète, leur prophète, voire un messie qu'elles attendaient, et déçu par la suite des événements et donc ayant considéré que ce n'était pas celui qu'elles attendaient. Et donc, le prophète va se débarrasser de ses tribus, va continuer donc sa prédication, va avoir des affrontements avec la tribu de la Mecque jusqu'en l'an 630, où la Mecque va finir par reconnaître son autorité politique, guerrière, religieuse, et va lui permettre ainsi de faire son dernier pèlerinage avant de décéder à Médine en l'an 632, sachant que dans ces deux dernières années, le prophète avait déjà lancé des conquêtes vers l'est du côté de l'Irak et vers l'ouest du côté de la Palestine. Voilà brièvement le tracé historique de la naissance de l'islam.
Quelle est la portée de l'Égypte, de l'exil donc de Mahomet dans l'islam?
Alors, la portée de l'Égypte va se développer dans les siècles qui vont venir, dans la mesure où, en premier lieu, on va retenir cette année de l'Égypte comme étant le début du calendrier musulman, de l'ère musulmane. Chaque religion a son propre calendrier. Donc, en islam, nous avons un calendrier qui débute avec l'Hégire en l'an 622. Et de manière plus importante, l'Hégire va marquer deux étapes, évidemment, dans la vie du prophète, puisque la première partie de sa vie sera à la Mecque et la deuxième, elle sera à Médine. Et en ce qui concerne la révélation et donc les versets qui vont composer le Coran, les théologiens, les érudits, les savants musulmans, les intellectuels, etc., vont considérer de deux manières la révélation, ce qu'on appelle la révélation mécquoise et la révélation médinoise. Là aussi, pour faire court, certains vont considérer que les versets et la révélation mécquoise constituent le cœur de la religion, avec ses piliers, ses fondamentaux, c'est-à-dire ce qui est intangible et immuable à travers le temps, la prière, l'aumône, etc. Et puis, pour ce qui est de la période médinoise, où le prophète va en plus du rôle de prophète qu'il avait joué jusque-là à la Mecque, va endosser aussi l'habit de chef guerrier et l'habit de législateur, dans la mesure où dans la révélation, il y aura aussi des versets normatifs, des versets législatifs. Et pour cette deuxième période de la vie du prophète, donc de l'Égypte, on va avoir des gens ou un groupe d'individus, un groupe de savants qui va dire « c'est une période circonstancielle, donc les versets qui ont été révélés au prophète doivent être considérés comme circonstanciels et ne peuvent pas venir contredire ou abroger les mêmes versets ou les versets sur le même sujet, sur les mêmes questions qui avaient été livrés à la Mecque. » Alors qu'il y a une deuxième position opposée qui dit non, les versets les plus récents, les derniers, vont venir abroger et remplacer les versets précédents, d'où cela a donné naissance à une des sciences coraniques qu'on appelle la science de l'abrogeant et de l'abrogé, qui pose un certain nombre de problèmes, puisque, et là aussi je vais être très bref, il y a un verset, je ne l'ai plus en tête le numéro du verset et le chapitre, qui est appelé « verset du sabre » et qui est considéré par les djihadistes guerriers, djihadistes terroristes, comme étant le verset qui a abrogé tous les autres versets plutôt sympathiques et positifs vis-à-vis des non-croyants, vis-à-vis des mécréants. Les juifs, les chrétiens et bien d'autres d'ailleurs, et ils se basent sur ce verset pour légitimer leur jihad violent. Donc vous voyez cette égire va marquer donc la vie du prophète en deux temps. Et pour terminer, certains vont comparer cette hégire, cette immigration, avec ce qu'avait fait Abraham aussi, puisque Abraham, sur l'injonction de Dieu, va quitter sa terre natale pour aller s'installer dans la terre promise. Donc, il va immigrer pour aller s'installer sur la terre promise. Et le prophète, à l'instar d'Abraham, va immigrer aussi. Et de là, un encouragement, et on l'a vu quand il y a eu l'épopée de Daesh avec les conquêtes qu'ils ont menées, les territoires qu'ils ont soumis. On a en France et ailleurs dans le monde où il y a des communautés musulmanes et ce que j'appelle des agitateurs, il y a eu des invitations à faire l'égir, à aller vivre, quitter la terre de mécréance et aller vivre en terre d'islam pour vivre pleinement sa religion, à l'instar du prophète qui a quitté la Mecque pour aller s'installer à Médine. J'ai peut-être oublié quelques éléments aussi, mais ça reviendra peut-être par la suite.
Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus entre la période mécoise et la période médinoise ?
En islam, il y a assez peu de consensus. Il y a des tendances dominantes et il y a des voix dissonantes. Chacun va interpréter, on verra cela quand on parlera, si on parle du jihad, ça va être pareil, c'est-à-dire il y aura des interprétations qui iront d'un extrême à un autre, en passant par des lignes moyennes, pondérées, disons.
D'accord. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les sources de l'islam ? On a évoqué le Coran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Quelles sont les autres sources de l'islam, s'il vous plaît ?
Oui, la première source de l'islam, c'est bien entendu le Coran, qui est un texte sacré et considéré par l'islam comme étant la parole de Dieu, comme je l'ai dit, parole et texte, livre qui est incréé, dans le sens où, pour faire schématiquement, bref aussi, il y a ce qu'on appelle la matrice originelle du livre qui existe auprès de Dieu, dans les cieux, au paradis, et qui est le texte donc originel ayant existé depuis que Dieu existe, donc il est consubstantiel à Dieu. Et puis il y a le texte sur terre qui est la parole que le prophète a apportée et qui va être mise par écrit par la suite à sa mort. Peut-être existait-il des supports sur lesquels certains avaient déjà écrit certains versets du prophète, mais l'essentiel du travail de compilation, comme on dit, du rassemblement des versets du Coran va se faire après la mort du prophète. Alors la tradition musulmane nous dit que le Coran a été mis en place dans les 20 années qui ont suivi la mort du prophète, sous le règne du troisième calife, qui s'appelait Othman, le calife étant le successeur du prophète sur terre. Donc très tôt après la mort du prophète, moins de 30 ans, alors que les recherches actuelles, et là la recherche scientifique, surtout dans les pays occidentaux, depuis une vingtaine d'années, a bien entendu, et même plus, mais a bien entendu remis en question cette naissance du Coran pour la situer un peu plus tard, probablement au début du 8e siècle, avec un calife qui a finalement mis la touche dernière au texte coranique, et peut-être tel qu'on la connaît aujourd'hui, parce que là aussi, on n'a pas de certitude. Sachant que sur un tout autre plan, l'écriture arabe à l'époque du prophète était une écriture composée de trois lettres, hein, les mots étaient composés de trois lettres, il n'y avait pas de voyelles pour signifier comment il fallait prononcer un mot, et ce n'est que justement sous le règne de ce calife vers l'an 700 que l'écriture arabe et la grammaire arabe se sont développées pour pouvoir avoir une écriture vocalisés, comme on dit, avec ce qu'on appelle des signes diacritiques, des petits signes qui sont mis au-dessus de l'écriture pour dire comment ça se vocalise. Donc tout ça, ça s'est fait avec le temps et très probablement, pour ne pas dire certainement, le Coran n'est pas l'œuvre du troisième calife tel que la tradition nous le dit. Voilà la première source. Alors il y a beaucoup d'autres choses que l'on peut dire sur le Coran. Je vais passer à la deuxième source qu'on appelle la sunna prophétique. Alors là, à nouveau, je place une petite remarque. Je parle beaucoup plus de l'islam sunnite que de l'islam chiite. Ils ont des points communs, certes, mais il y a aussi des différences fondamentales. Alors, la deuxième source de l'islam, c'est ce qu'on appelle la sunna prophétique, la tradition prophétique, sunna, d'où le mot sunnite, et qui englobe deux composantes. La première, c'est la vie du prophète, qu'on appelle la sira en arabe, et la deuxième, ce sont les paroles du prophète, ce qu'on appelle les hadiths. Donc, les paroles plus la vie ou la biographie du prophète vont composer sa voix, sa tradition, la sunna prophétique, mais qui va naître que deux siècles après la mort du prophète. Alors là aussi, il y a énormément de choses à dire, mais vu que le temps nous est limité, cette deuxième source de l'islam pose énormément de problèmes. D'ailleurs, même au sein de l'islam, on a réalisé qu'il y avait des problèmes avec les paroles prophétiques, surtout, dans la mesure où il y a des auteurs de ce deuxième siècle après la mort de l'islam qui ont compilé, qui ont ramassé, qui ont voyagé à travers l'empire arabo-musulman pour collecter les paroles des prophètes, paroles qui étaient ainsi transmises par des chaînes de transmission. Et donc ces auteurs-là croiser quelqu'un qui leur dira « Moi, je tiens de un tel qui a entendu un tel dire qu'il tenait de un tel que le prophète a dit telle chose », ce qu'on appelle le téléphone arabe. C'est de là d'où vient l'expression, en fait. Et on a eu des compilations de ces paroles de prophètes. Le sunnisme retient cinq grands textes, mais dont on sait que les auteurs mêmes, dont le premier qui fut Al-Bukhari, c'est l'auteur de la première compilation des textes, lui-même avait identifié que des récits, des paroles du prophète étaient complètement inventés, forgés. Et il a nettoyé sa compilation quand il a commencé à produire son ouvrage final. Et de là, et même aujourd'hui, on sait que, j'y reviendrai peut-être, on sait qu'il reste encore dans les textes des paroles du prophète, des paroles qui sont forgées. Et de ce fait, la tradition musulmane a mis en place une deuxième science religieuse qu'on appelle la science du hadith, la science des paroles du prophète. Et on classe justement les paroles du prophète en cinq catégories. Là aussi, je vais faire très bref. Ça va de la parole ou du hadith forgé, inventé, hein, pour des raisons apologétiques, pour justifier quelque chose, jusqu'au hadith qui est authentique, en passant par les hadiths qui sont, valables, ou, aidez-moi, j'ai le mot qui me manque, ou plausible. Voilà. Donc, nous avons ces deux sources qui sont les deux sources essentielles de l'islam, qui toutes les deux posent problème, aussi bien dans leur rédaction que dans leur contenu.
J'ai vu que, récemment, donc, l'Arabie Saoudite allait ouvrir justement une école ou un institut pour justement réfléchir à questionner ces hadiths.
Oui, absolument. Justement, cette information figure dans l'article que nous avons évoqué, puisque, si je ne me trompe pas, c'était en octobre 2017, il y a eu une communication de l'organe officiel du Royaume d'Arabie qui faisait savoir que le roi d'Arabie avait décrété la création d'un centre de recherche à Médine, dirigé par un conseil d'uléma, des savants religieux musulmans internationalement reconnus, pour nettoyer, purger les hadiths du prophète, justement de ces paroles sur lesquelles certains mouvements, certains courants, certains individus se basent et auxquels ils font appel pour justifier des meurtres et des crimes. Chose qui ne doit pas exister en islam, ce sont les paroles donc du communiqué du Royaume d'Arabie. Donc, c'est un aveu explicite qu'il y a encore dans les paroles du prophète aujourd'hui des paroles qui justifient meurtre et crime.
Vous parliez tout à l'heure de la différence entre sunnisme et chiisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'organise l'islam aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les deux uniques factions ou il y a d'autres divisions dans l'islam ?
Oui, il y a d'autres branches, mais qui sont beaucoup plus minoritaires, qui sont au nombre de 6-7, hein, on peut les limiter, sachant que parmi ces branches, il y en a qui sont assez lointaines de l'islam, mais dont les origines ou l'initiateur, le fondateur, était à l'origine musulman. Il y a par exemple les Druzes, pour rester plutôt dans le giron de l'islam, il y a ce qu'on appelle les soufis. Alors, il y a plusieurs branches donc de l'islam, les plus importantes. Par ordre de quantité, bien entendu, ce sont les sunnites, majoritairement à 80%, disons, on n'a pas vraiment des statistiques. Ensuite, vous avez les chiites qui pourraient constituer 15%. Alors, les sunnites eux-mêmes suivent quatre différentes écoles, je ne vais pas les énumérer, mais pour dire que dans chaque tradition, dans chaque branche, il y a des sous-branches. Donc, le sunnisme est divisé, ou plutôt les sunnites se rattachent à quatre écoles juridiques, c'est comme ça qu'on les appelle en français, et c'est pas pour rien qu'elles portent ce nom-là, écoles juridiques, puisqu'elles présentent aussi des dispositions, des interprétations, des lectures qui touchent au droit, et à la religion aussi, bien entendu. Quant au chiisme, il est composé de deux grandes branches, ce qu'on appelle les chiites duodécimains et les chiites septimains. Là, c'est plus facile à les énumérer puisqu'il n'y en a que deux. Les duodécimains sont des chiites qui croient en 12 imams et les septimains, puisqu'il y a le mot 7, ils croient en 7 imams. Qu'est-ce que c'est que cette affaire d'imam? Le mot imam ici en français, en l'occurrence, on l'écrirait avec un I majuscule. Ça c'est l'ordinateur. On l'écrirait avec un I majuscule. Et dans le chiisme, ce sont des descendants du prophète, de la famille du prophète, à travers le couple composé par sa fille Fatima et son gendre et cousin paternel qui s'appelait Ali. Donc, ce couple-là a eu des enfants, deux garçons pour l'essentiel, qui vont constituer la lignée à travers laquelle il y aura les descendants du prophète qui vont être suivis par les chiites. Et ce sont les paroles de ces prophètes, de ces imams, qui vont constituer dans le chiisme la tradition de la parole de la famille du prophète, c'est-à-dire que par différence avec les sunnites, les chiites suivent les textes qui relatent les propos, les paroles et les explications de leurs imams et non pas du prophète. Ils donnent plus d'importance aux imams qu'aux prophètes. Voilà brièvement exposé ces deux grandes branches de l'islam, sachant qu'à côté, donc comme je le disais, il y en a plusieurs autres, comme les Zaydites par exemple, les Druzes, les Soufis, et bien entendu la branche des Salafistes qui eux se rattachent à la tradition de l'islam de l'origine, un islam épuré et complètement dégagé de tout ce qui est venu l'entacher par la suite. Voilà, bref, il y a certainement d'autres choses à dire, mais si vous avez, à ce moment-là, on complétera avec vos questions directes.
J'aimerais faire le parallèle avec la religion catholique, où on a une hiérarchie dans le clergé avec le pape, et toute une hiérarchie donc dans l'ordre du clergé.
Oui.
Est-ce qu'on retrouve la même chose dans l'islam?
Alors, on a la même chose dans le chiisme. C'est-à-dire qu'il existe une hiérarchie ecclésiastique ou cléricale dans le chiisme. Ça commence avec ceux qui entrent dans les études religieuses, les talibs, ça veut dire celui qui demande la connaissance, les études. Et ça va, et nous avons donc les mollahs, les ayatollahs, les hujjatollahs et le guide suprême, qui est donc une fonction que l'ayatollah Khomeini a créée avec la révolution iranienne dans le cadre de sa conception, nouvelle conception du chiisme, dans laquelle il a introduit la responsabilité de la gestion politique. Parce que jusque-là, là aussi pour faire bref, mais ça nécessite un développement, le chiisme se tenait à l'écart, avec toutes les nuances que cela doit comporter, ce que je dis, se tenait à l'écart du politique. Et puis, pour des raisons historiques et politiques, Khomeini va finir par instituer ce qu'on appelle la gouvernance du savant religieux. Il y a une expression en persan et en arabe qui correspond à cette terminologie. Et c'est pour cela que nous avons en Iran, par exemple, bien entendu, un président de la République, un parlement, etc. Mais au final, toutes les décisions doivent être entérinées par le guide suprême, le chef suprême, qui est lui-même un religieux. Donc, dans le chiisme, il y a effectivement un clergé. Ce qui n'existe pas dans le sunnisme. D'où la problématique, ou pas d'ailleurs, on ne sait pas vraiment, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un collège ecclésiastique, une hiérarchie ecclésiastique dans le sunnisme? Si oui, selon quelle orientation, avec quel principe, etc. Bon. Dans le sunnisme, il y a plusieurs figures qui sont importantes. Il y a la figure de l'imam. Imam, en arabe, c'est celui qui se tient devant. Et en fait, à l'origine, c'est celui qui se tient devant la communauté pour guider la prière, pour guider le moment du recueillement et de la prière. Et donc, dans le sunnisme, avec un i minuscule cette fois-ci, l'imam est un officiant religieux qui s'est formé essentiellement aux sciences islamiques, à étudier les sciences que j'ai évoquées et qui sont accompagnées par d'autres. Donc, pour rappel, il y a la science de l'abrogé et de l'abrogé, la science du hadith, la science, l'exégèse, l'interprétation du Coran, bien entendu, et la science des circonstances ou des raisons de la révélation, dans le sens où, quand le prophète avait une révélation, un verset qui lui était descendu. Il y avait, pas pour tous bien entendu, mais il y avait dans certaines circonstances des raisons pour cette révélation. Et c'est à partir de l'étude de ces circonstances de révélation qu'on a développé cette science. Donc l'imam sunnite va étudier toutes ces sciences-là, tous les textes, Les textes principaux, comme par exemple ce que j'ai évoqué s'agissant des compilations des paroles du prophète, etc., et les grands penseurs de l'islam, et puis va pouvoir par la suite, sur la base de cette formation qu'il a reçue dans des universités reconnues, que ça soit en Égypte, par exemple, ou en Tunisie, ou au Maroc, ou au Pakistan, pouvoir s'établir comme imam et officier auprès de ces communautés.
Donc, les imams français sont donc formés à l'étranger, ou il y a de ces universités reconnues?
Il n'y a pas d'imam français.
D'accord.
C'est-à-dire que, oui, ils sont en France, certains sont français, mais leurs études sont faites à l'étranger. On n'a pas en France d'institut islamique de formation des imams. Et donc, ce sont des individus qui ont fait leurs études à l'étranger, qui sont revenus qui sont venus en France et qui, par la suite, ont été salariés, embauchés, employés par des associations cultuelles. C'est ainsi que l'organisation cultuelle se fait pour officier en tant qu'imam.
D'accord. Dans quelle mesure l'État français pourrait intervenir dans la formation des imams qui officient en France pour avoir des prêches qui soient en accord avec notre société?
Alors déjà, dire des prêches en accord avec notre société, c'est un grand débat en soi. Et le grand débat, c'est est-ce que l'État français doit se mêler de cette question de formation des imams au nom du principe de la laïcité.
Tout à fait, puisque ça remettra en cause ce principe. Hein.
Voilà, donc à mon avis, ce serait contraire au principe de laïcité. J'ai eu l'occasion d'écrire une contribution au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 pour dire qu'il faudrait peut-être que ça soit au niveau de l'Europe qu'on réfléchisse à mettre en place une formation des imams, où là aussi il faudrait s'entendre sur le contenu de cette formation pour qu'on ait des imams produits, je dirais, en Europe, mais je m'abstiendrai de dire dans la culture européenne. Parce que la religion, c'est la religion, et vous ne pouvez pas, vous immiscer dans l'interprétation de la religion d'un texte, un même verset, en disant ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est à prendre et ça c'est à écarter. C'est la libre opinion, la libre pensée, la libre conscience, la liberté de conscience. Donc, je voudrais simplement faire un petit parallèle ici avec le problème et les débats que nous avons eus en France il y a de nombreuses années en ce qui concerne les sectes. Parce qu'on a voulu en France définir ce que c'est qu'une secte et condamner donc tout ce qui pouvait être qualifié de secte. Or, juridiquement, on n'a pas pu le faire parce qu'on ne pouvait pas vraiment définir une secte. Et la solution a été au final de contrer et de sanctionner, de condamner les dérives sectaires. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est, en faisant ce parallèle, non pas pour dire que l'islam est une secte, mais pour dire qu'il y a des dérives qui sont commises au nom de l'islam. Ces dérives-là, bien entendu, quand il s'agit d'un attentat terroriste ou d'un un attentat tout court, c'est une dérive sectaire qui n'est pas du tout acceptable, qui est abominable et qui est condamnable. Maintenant, s'agissant, et je reviens un peu à ce que vous disiez, les propos que vous avez utilisés, s'agissant d'une dérive qui pourrait heurter ou ébranler nos principes et nos valeurs, oui, là, ça devient un autre champ sur lequel il faut réfléchir et pour lequel il faut prendre des mesures, mais ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Bien sûr, quand on dit que quelqu'un qui refuse de serrer la main à une femme, en raison de ses motivations religieuses, moi, je ne vois pas que c'est un délit, personnellement. C'est sa culture. Pourquoi pas ? Je ne peux pas. Et quand j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, je vous fais part de cette réflexion, tout simplement, parce que j'ai eu à former un couple d'expatriés dont l'épouse était chinoise bouddhiste. Et au moment d'accueillir ce couple-là, je tends ma main, je salue pour saluer la femme, et elle joint ses mains devant elle et penche son buste dans le salut traditionnel, on va dire asiatique. Est-ce que je me suis senti offusqué ? Non, c'est sa tradition, d'accord ? Donc, j'ai fait pareil. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des signes. Il y a des éléments qui, compilés à un moment donné, ça va faire un saut assez chargé et pour lequel il faut prendre des mesures, chose qui, à mon sens, aujourd'hui, n'a pas été encore faite.
Une dernière question sur les imams. Est-ce qu'une femme peut devenir imam ?
Est-ce qu'une femme peut devenir imam ? À ma connaissance, rien ne l'interdit en islam. C'est comme dans le christianisme ou chez les catholiques, pour être plus précis, parce que vous avez des pasteurs femmes.
Dans le protestantisme.
Oui. Rien ne l'interdit. Il y a d'ailleurs, je crois, une imam femme en France, mais il n'y en a pas d'autres à ma connaissance. Si je ne me trompe pas, il y en a bien une. Et puis, voilà, c'est une tradition qui fait que les femmes ne sont pas admises à ce poste privilégié pour les hommes.
Quelle est la place de la femme dans l'islam ?
Comme je le disais, ça va de ceux qui considèrent que leur femme, tout en étant musulman, est leur égale et donc elle a tous les droits. Et il y a ceux qui veulent la voiler de la tête aux pieds. Dans les textes, particulièrement le Coran, il n'y a rien de cette sorte-là qui assujettit la femme à une tenue vestimentaire. Et là, si vous voulez, on peut parler du voile quelques instants. Puisque dans le Coran, il n'y a que deux versets qui parlent d'un tissu, c'est pas un voile, il y a deux mots qui sont utilisés, dont on ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils veulent dire précisément, mais on pense que c'est une sorte de châle. Imaginez-vous à cette époque en Arabie, et on a d'ailleurs des dessins, des motifs où on voit des femmes byzantines, puisque il y avait, on sait qu'il y avait des communautés chrétiennes auparavant, et on voit ces femmes comment elles étaient habillées. Et donc, ça devait être une sorte de châle qu'elles rabattaient sur leurs épaules, qui pouvait être dénudée en raison de la chaleur, de la tenue elle-même, etc. Et ces deux versets, dont l'un est de nature très générale, alors que le deuxième s'adresse précisément aux femmes du prophète et aux croyantes, qui leur intiment l'ordre ou la prescription de rabattre sur leurs atours, sur leur nudité peut-être, ce châle-là, afin qu'elle soit reconnue en tant que telle, c'est-à-dire croyante, et ne pas être embêtée. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le Coran. Après, il y a dans les paroles du prophète d'autres éléments dont je ne suis pas spécialiste, mais il y a toute une littérature qui a été développée autour du voile dans un sens éthique. Et dans un sens éthique, dans le sens où c'est une obligation de pudeur, et dans un sens religieux poussé, où il y a un concept en islam qui est celui de la nudité ou des parties à cacher, à ne pas exposer à l'œil nu ou à la vision, dans la mesure où cette exposition pourrait susciter des désirs charnels qui empêcheraient, pour faire court, le pratiquant, le fidèle musulman, à cause des mauvaises pensées qu'il pourrait avoir avec éventuellement la commission de l'acte lui-même, qui est donc l'acte charnel en dehors de mariage et tout autre arrangement, à ce moment-là, de pouvoir le condamner au à l'enfer. Donc, il y a des interprétations pudiques et il y a des interprétations religieuses qui vont à l'extrême pour dire qu'il faut cacher tout le corps de la femme, ce qui n'est pas, comme je le dis et je le rappelle à nouveau, dans le Coran.
Très bien. J'aimerais maintenant qu'on discute du sujet du halal.
Oui.
Quelle est son origine ? Est-ce qu'il s'agit d'une prescription religieuse ?
Oui, absolument. Alors, à l'origine, l'essentiel du halal touchait l'alimentaire, puisqu'on trouve des prescriptions, des versets, pardon, dans le Coran, où il est dit que Dieu a rendu licite pour vous tel aliment, etc., et vous interdit tel autre aliment. Donc, c'est très clair. Il y a un interdit alimentaire et un autorisé alimentaire. À partir de là, par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques instants, à savoir la finalité de la religion, c'est d'assurer aux pratiquants l'accès au paradis après la mort. Pas qu'en islam d'ailleurs, bien entendu, vous savez que dans le christianisme, c'est aussi pareil, dans le judaïsme, c'est un peu différent parce que le judaïsme était là bien avant ces deux monothéismes, etc. Et puis là aussi, il y a différents courants. Donc, accéder au paradis, ça veut dire respecter toujours ce qui est halal, autorisé, licite, et pas seulement en termes de licite alimentaire. Toutes les branches de la vie et des objets qui entourent l'individu relève du licite et de l'illicite. Les jeux vidéo peuvent être licites ou illicites, les vêtements peuvent être licites ou illicites. Donc, on a développé avec le temps et la naissance d'objets, par exemple les jeux vidéo, les films, etc., une extension appropriée pour le musulman de ce qui est licite ou pas. Et justement, à titre anecdotique, il y a quelques années, je pense que c'était en 2010, par là, en faisant mes courses dans un supermarché, je tombe devant un rayon d'œufs, des œufs, où c'était marqué « œufs halal ». Alors là, je reste pendant quelques instants un petit peu interloqué et puis très perplexe. Puis je me suis dit « mais non, quand on connaît les fondamentaux de la religion, etc., un œuf, oui, peut ne pas être halal. Tout simplement, par exemple, si la poule a été nourrie avec des farines animales contenant des composants d'origine porcine, hein, donc du porc. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et d'ailleurs, cette anecdote faisait suite à un grand moment où en France, il y avait une association musulmane qui avait fait analyser des échantillons de produits agroalimentaires labellisés halal et dans lesquels ils avaient trouvé, tenez-vous bien, des traces d'ADN de porc. Donc, c'est pas des cellules. C'est pas de l'ADN, c'est des traces d'ADN de porc. Et il y a eu une grande campagne contre ces industriels agroalimentaires en France, qui leur a coûté très cher. Et là, on voyait effectivement qu'il y avait toute une agitation autour du halal et où on questionnait et on venait soutenir le fait de l'abattage rituel. Pour être très court, et refuser tout ce qui était étourdissement de l'animal. Et puis ça a passé, mais c'est pour dire qu'il y a des vecteurs dans la religion qui sont des sources et des leviers d'agitation et d'activisme de certaines personnes et de certains groupes. Tu vois qu'on est parti d'une question et on est parti très loin, on est arrivé très loin.
C'est très bien. Qui définit les normes du halal ?
Alors, il y a déjà le Coran, il y a ensuite les paroles du prophète, et ensuite vous avez des conseils ou des groupements. Donc, il n'y a pas, en dehors des deux sources, bien entendu, que j'ai évoquées, de la religion, il y a des corps constitués qui peuvent dire telle chose est halal ou pas. Et là aussi, vous voyez, il n'y a pas consensus, dans la mesure où, alors je ne sais plus quel film récemment a été interdit dans deux pays musulmans, deux pays arabes musulmans, mais n'a pas été interdit dans d'autres pays musulmans. Alors pourquoi les uns qu'on le considère haram et les autres halal? Allez savoir.
Concernant cette mouvance du halal et son extension dont vous parliez, notamment au cinéma, aux jeux vidéo, est-ce qu'on n'a pas là un possible renforcement du communautarisme si on prend le cas de la France?
Oui, c'est sûr que ça renforce le communautarisme. Maintenant, est-ce que vous pouvez blâmer quelqu'un de vouloir pratiquer et respecter des prescriptions religieuses qui sont fondamentales et essentielles pour lui, parce que sinon il n'irait pas au paradis? Donc, bien entendu, il y a la prescription religieuse dans sa dimension légitime, et à côté, il y a le champ qui peut être exploité par justement des mals intentionnés, des mauvais intentionnés, pour créer et renforcer un communautarisme. Mais moi, je ne poserai pas cela dans des termes de communautarisme. C'est une pratique religieuse, c'est la pratique religieuse. Et c'est pour ça que je reviens à l'idée de veiller et être attentif aux dérives qui sont faites au nom de la religion, des prescriptions, des lois religieuses, etc., et ce que cela peut entraîner. Mais pour l'instant, notre cadre juridique ne permet pas cela.
Il faudrait modifier le cadre juridique.
Écoutez, en fait, j'anticipe sur la deuxième partie de mon article, la solution pour moi étant l'interdiction totale de tout ce qui est religieux dans l'espace public, autrement dit l'espace partagé ou l'espace commun, que ça soit les signes ostentatoires religieux, dans l'esprit de la loi de 2004 appliquée aux écoles publiques, ou des revendications religieuses pour les jours de congé, par exemple, ou les repas de substitution. La religion, et là je suis presque extrémiste, la religion c'est chez soi ou dans les lieux de culte, mais pas dans l'espace commun. Alors cela dit, il y a toute une justification derrière, bien entendu, parce que cet aboutissement n'est pas juste une idée de restreindre la pratique religieuse, qui d'ailleurs a déjà été restreinte par la jurisprudence. La pratique religieuse, c'est une règle, mais ce n'est pas une règle absolue. Donc, on a eu des cas portés devant les tribunaux où la pratique religieuse a été soumise, par exemple, au droit du contrat, précisément le contrat de travail. Donc, ce n'est pas absolu, la liberté religieuse. Et aujourd'hui, les enjeux sont tellement importants qu'il faut vraiment réfléchir là-dessus, sachant que ce ne sera pas simple, bien entendu.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence? On a parlé de l'islam tout au long de cet échange. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre islam et islamisme?
Ok, ça va être très simple. Dans les années 70, je vivais encore au Liban. Et au Liban, on a commencé à entendre une expression en arabe, donc libanais et autres dialectes, qui disait la chose suivante. Mais avant de vous dire la chose suivante, je vais revenir sur le mot islamisme. On ménage un petit peu le suspense. Le mot islamisme, jusqu'au milieu du XXe siècle, un peu même jusqu'aux années 60, désignait la religion islam essentiellement dans la littérature scientifique. Donc si vous prenez des ouvrages d'islamologues, ils parlaient d'islamisme pour désigner la religion islam. Et puis, à partir des années 70, justement en raison de cette expression qui était l'aboutissement de toute une pensée philosophico-religieuse du début du XXe siècle, est apparue cette expression qui dit « l'islam est religion, monde et État ». L'islam est religion, monde et État, ce qu'on a appelé en arabe la règle des 3D, puisque en arabe ça se dit « al-islam din dunya wa dawla », donc « din dunya wa dawla », religion, monde et État, c'est des mots qui commencent par un D. Et c'était l'aboutissement de cette pensée politico-religieuse de la fin du 19e, début du 20e siècle, avec certains penseurs dont un des plus connus, c'est Hassan al-Banna, qui va fonder en 1928 les frères musulmans en Égypte, et qui va instituer, formaliser et formuler en une simple phrase qui tient en cinq mots, ce que doit être l'islam. Et c'est ce qu'on a appelé l'islamisme. Donc, l'islamisme, c'est la conception, l'idéologie, le projet qui veut instituer la relation permanente entre le temporel et le spirituel et le politique. Donc, il n'y a pas d'État qui puisse exister sans religion, il n'y a pas de politique qui puisse exister sans religion, et de ce fait-là, l'islam est la composante qui englobe ces trois éléments. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Alors, l'objectif ultime étant de faire régner ce qu'on appelle la hakimiyya de Dieu sur terre. Hakimiyya est un terme arabe qui veut dire le droit, le jugement, la gouvernance. Donc, on veut instituer la gouvernance de Dieu sur terre. C'est la loi divine qui doit régir les hommes et les États. Donc, c'est un principe. C'est ce principe-là qui sous-tend la philosophie de l'islamisme pour vivre dans un État religieux et une société religieuse bâtie sur la charia. Première fois que je prononce ce mot, c'est-à-dire le droit musulman, pour lequel on considère que, dans l'extrême, il n'y a de législateur que Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle la hakimiyya, hakim, la gouvernance, la législation de Dieu. Voilà, l'islamisme, c'est ça, aussi simple. Je ne sais pas, pour moi, c'est simple, mais est-ce que pour vous, ça paraît simple?
Est-ce que vous pourriez, c'est très clair, est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est la charia, plus dans le détail, et quels sont ses fondements?
Alors, la charia est un mot qui a une racine verbale, chara, ça veut dire il a cheminé, c'est faire un chemin, marcher. Et il semble qu'à l'origine, à partir de la prédication du prophète et dans les deux premiers siècles de l'islam, quand il y a les différents corpus qui se sont mis en place, c'était la voie que devait suivre celui qui se proclamait musulman pour aller vers le paradis. Et c'était une voie donc qui était faite ou composée par les prescriptions religieuses qu'on avait relevées dans les textes et bien entendu dans les prescriptions juridiques, puisque j'ai évoqué pour le sunnisme les quatre écoles juridiques. Donc il y avait des prescriptions juridiques qu'il fallait respecter. Le contrat de mariage, par exemple, puisque en islam, le mariage est un contrat. Et d'autres normes législatives et réglementaires de ce type-là. Donc, c'était dès le départ, la charia, l'ensemble des dispositions religieuses, législatives, qui permettaient aux pratiquants d'accéder au paradis. Et ça, c'est resté comme ça, avec bien entendu une extension au fil des siècles, après des périodes de sommeil, je dirais, de la pensée musulmane législative, et puis qui s'est ravivée, comme je le disais, avec ces penseurs de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui vont instituer la charia comme étant le droit divin qu'il faut appliquer et qu'il faut suivre. sachant que, bien entendu, alors, dès l'origine, c'était la parole de Dieu, donc c'était le droit divin. Mais là, on est revenu à cette période dans une optique d'instituer cette loi divine en considérant qu'il ne peut pas y avoir de démocratie, que les hommes ne peuvent pas voter des lois, que les lois doivent être recherchées dans les sources de l'islam ou dans les sources et le travail de ce qu'on appelle l'ijtihad et bien d'autres formes aussi de réflexion qui existent en islam de la part des érudits et des savants musulmans qui eux-mêmes déduisent la loi ou les prescriptions juridiques, légales et religieuses et qu'on appelle les fuqaha, c'est-à-dire les jurisconsultes, ceux qui connaissent la religion suffisamment pour pratiquer un effort de réflexion et en déduire la règle juridique qu'on appelle en arabe le fiqh. Voilà.
Donc là, on est clairement en opposition avec le modèle républicain français.
Totalement. Mais pas que français, toutes les démocraties. Parce qu'à partir du moment où vous avez un parlement des hommes qui votent les lois, vous êtes en contradiction avec cette vision islamiste qui prévaut dans une partie de la communauté musulmane.
Donc ça, c'était concernant l'islamisme. Du coup, est-ce que l'islam est peut-être compatible avec la démocratie et notre république?
Alors, je vais vous faire deux réponses qui vont peut-être vous frustrer. La première, c'est de quel islam s'agit-il? Définissez-moi islam. Et la deuxième, c'est une réponse que j'ai déjà faite dans le sens où ce n'est pas la question d'intérêt. Ce n'est pas la question focale. On revient à cette histoire des sectes. Est-ce qu'on interdit la scientologie ou pas? Ben, on sait que maintenant, on ne peut pas interdire la scientologie. Mais ce que l'on fait, c'est qu'on condamne et on punit ces dérives. Alors, il y a des dérives, comme je l'ai dit et je le répète, qui existent aujourd'hui, mais qui sont des dérives qui mettent en cause notre existence sociale, la cohésion sociale, républicaine, les institutions, parce qu'effectivement, quand vous dites l'article 1 de la Constitution nous dit « La France est une république, okay, démocratique, laïque, indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Et démocratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le peuple qui fait les lois, à travers ses élus, les gens qu'il vote, pour qui il vote et qu'il désigne comme parlementaires. Or, ce modèle républicain ne peut pas être compatible avec un modèle où on vous dit « non, moi je vais fonctionner selon les règles de Dieu ». Et en fait, nous avions cela en France sous l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution française, puisque l'autorité du roi était aussi bien spirituelle que temporelle, même si le spirituel, il ne s'en préoccupait pas trop, mais sa mission octroyée par Dieu, c'était de s'assurer que ses sujets iraient au paradis après la mort. Et un des éléments provoqués, apportés par la Révolution et par la loi de 1905, c'était justement de dissocier ce temporel et ce spirituel. Or, aujourd'hui, vous avez des musulmans qui ne pratiquent que ce qu'on appelle les cinq piliers de l'islam. Donc les fondamentaux, l'essentiel, ce qui est intangible, et le reste, ils n'en tiennent pas compte. Donc voilà des gens qui, à mon sens, pour qui on n'aurait aucun souci, on se pose même pas la question de est-ce qu'ils posent problème ou pas, est-ce qu'ils sont français ou pas, voilà. Et d'ailleurs, je voudrais dire... on parle beaucoup de pourquoi il y a eu cette émergence, cette crispation, etc. Ben, c'est très simple. Là, j'ai pas développé l'arrière-plan historique. Mais à partir des chocs pétroliers, quand surtout l'Arabie Saoudite a été très riche en pétrodollars et qu'ils ont voulu diffuser la parole de l'islam à travers le monde, ils ont envoyé des prédicateurs dont certains sont venus auprès des premiers, les darons, comme on les appelle aujourd'hui, c'est-à-dire les premiers musulmans installés en France pendant les 30 glorieuses, donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont travaillé dans la reconstruction, les industries, les pneumatiques, etc., et qui pratiquaient cet islam, je dirais, de la foi du charbonnier, c'est-à-dire les prières, aller à la mosquée, faire le jeûne, célébrer la grande fête du sacrifice, et puis quand ils en avaient les moyens, aller à la Mecque pour faire le pèlerinage. Et puis sont venus ces prédicateurs munis d'un exemplaire du Coran en leur disant « Non, d'accord, ne croyez pas que vous êtes des bons musulmans rien qu'en faisant ça. Pourquoi ? Parce que voilà, il est écrit ici que vous devez faire telle chose, ou le prophète a dit qu'il fallait faire telle. » Donc, on leur a amené une connaissance religieuse. Je ne porte pas de jugement sur la connaissance bonne, mauvaise, fausse, juste. Je veux dire, on leur a apporté une connaissance religieuse et à partir de là, on a eu ce qu'on appelle l'islamisation, la crispation, parce que oui, ben, écoutez, quand vous mettez en doute la pratique de quelqu'un dont l'intention est d'aller au paradis et vous lui dites si tu veux aller au paradis, c'est pas seulement ça que tu dois faire, mais tu dois faire ça aussi. Et puis on leur explique des choses de manière interprétée tendancieusement, très souvent aussi, eh bien on finit par aboutir à un communautarisme inquiet, perplexe, et qu'on n'a jamais su traiter en France, et qu'on n'a pas voulu traiter, je pense.
Pour continuer sur ce communautarisme, est-ce que du coup ça peut remettre en cause la cohésion nationale au sein de notre pays ?
Oui, bien sûr, parce que quand... moi, le vivre ensemble, c'est une expression que j'aborde. J'ai vécu au Liban, j'ai vu comment c'était. Alors, quand j'entends les gens dire le Liban est un laboratoire du vivre ensemble, je suis désolé, c'est absolument pas le cas. Sinon, les Libanais ne seraient pas aujourd'hui au point où ils sont. Donc, pour vivre ensemble, et d'ailleurs, je reprends ce que j'ai mis dans mon article, et j'en reviens à Jean-Jacques Rousseau, qui avait identifié quatre catégories de lois, les lois civiles, les lois pénales, les lois, me manque le troisième élément, et puis ce qu'il appelle la coutume, les mœurs et l'opinion. Autrement dit, comment on vit dans le pays. Donc il faut respecter les mœurs, les coutumes et l'opinion. Moi j'appelle ça la culture. Donc si on remonte un peu aux origines, quand les premiers immigrés arabo-musulmans se sont installés en France, etc., ils vivaient tranquillement, ils ne présentaient aucune gêne, aucun danger, aucune menace. Et puis, petit à petit, par la suite, a émergé ce communautarisme. Et on voit aujourd'hui, 50 ans plus tard, surtout au niveau des jeunes générations, les nouveaux comportements, comme par exemple le fait que deux tiers, alors je cite de mémoire, peut-être le détail n'est pas juste, mais deux tiers des jeunes entre 18 et 25 ans musulmans placeraient la charia au-dessus des lois de la République. Donc vous voyez qu'il y a eu une évolution qui a fait que ce qui faisait corps avant, aujourd'hui fait division. Et le danger, c'est quoi ? Le danger, c'est que à l'extérieur, voire même à l'intérieur, il y a des gens qui peuvent profiter de ces dissensions, de ces discordes, pour différentes raisons, et qui peuvent finir par nous affaiblir. Sachant que, par exemple, sur un plan politique, quand vous n'avez plus de consensus, quand vous n'avez plus un grand courant qui émerge, une grande politique soutenue par une majorité, le pays, à mon sens, est politiquement perdu. On voit comment les gens s'abstiennent aujourd'hui et on voit comment, sur un plan politique, on a justement des divisions qui fractionnent encore plus le pays. Donc, le communautarisme, oui, évidemment, c'est une menace. Alors, le pays, la société, pour moi, elle est déjà bien fracturée et c'est une menace qui peut se concrétiser avec des activistes et des agitations aussi bien de l'intérieur, mais surtout venant de l'extérieur.
Vous avez parlé de votre expérience au Liban. Vous avez notamment écrit un article sur la libanisation de la France. En quoi l'exemple du Liban est intéressant?
C'est en droite ligne de ce que je viens de dire, à savoir, et pour commencer, j'évoquerai une différence notoire entre le Liban et la France, c'est que le Liban était déjà un pays fracturé, puisque le Liban a été créé avec ce qu'on appelle un pacte de coexistence entre chrétiens et musulmans. Et un pacte qui prévoyait surtout la gestion politique du Liban, comment elle était attribuée aux différentes communautés. Et puis après, alors je vais faire bref parce que c'est un sujet qui mérite un long développement, mais je vous donnerai les points saillants. Donc la société libanaise était déjà une société en équilibre instable. Et puis est arrivé un élément extérieur dans cette société à partir de 1947 qui fut les exilés et les réfugiés palestiniens qui sont arrivés dans le pays. Flot qui, au fil du temps, a grossi en raison de divers événements, comme par exemple la guerre des Six Jours en 67, comme Septembre Noir en Jordanie, où les Jordaniens ont contré, dit-on, une tentative de coup d'État par les Palestiniens pour mettre la main sur le pays. Et là, les Jordaniens n'auraient pas fait de cadeau, dit-on, aux Palestiniens, dont une bonne partie est venue se réfugier au Liban aussi. Et puis, ces Palestiniens, à côté de la population ou des populations, il y avait les mouvements armés, les milices armées, l'OLP, le FPLP, etc., qui ont fini par déborder des camps qui étaient devenus des ghettos palestiniens où ils étaient cantonnés. Et il y a eu les premiers accrochages avec les forces de l'ordre, les forces de l'ordre libanaises à la fin des années 60. Et au final, en 73-74, ordre a été donné à ces forces de l'ordre de se retirer du terrain face aux forces palestiniennes. Ce qui a laissé un grand vide, ce qui a affaibli le pouvoir libanais, l'autorité libanaise, puisque les ordres sont venus de l'extérieur, bien entendu, et que les forces de l'ordre se sont retrouvées cantonnées, pour prendre une expression courte, à leur baraquement. Et donc, il y a eu des éléments qui ont profité de ce vide d'autorité publique pour instituer leurs lois, pour même mettre en place des zones de contrôle sous leur autorité, avec des barrages, des contrôles d'identité, voire des kidnappings et des massacres et des égorgements de chrétiens. Donc, on a eu une dilution de l'autorité, disparition de l'autorité politique et des forces de l'ordre. Et puis, cet affaiblissement et puis les agissements donc des Palestiniens a divisé l'opinion libanaise en deux parties, deux camps. Un qui soutenait les Palestiniens et qui était essentiellement composé de la gauche musulmane. Et face à eux, c'était ce qu'on appelle la droite conservatrice chrétienne. Je pense que là, on commence à faire un petit peu le lien avec ce qui se passe aujourd'hui en France. Et puis, si on reste pour quelques instants avec la France, avec les émeutes récentes, l'immigration à majorité musulmane, etc., le saupoudrage qui est déjà en cours depuis plusieurs années, mais dont on nous parle maintenant comme étant officialisé. Nous avons une société qui est sur un territoire maintenant très parsemé d'individus qui peuvent constituer des forces, non pas armées, mais des forces de contestation, des forces d'agitation qui peuvent très rapidement, à court terme ou à long terme, mais il est à craindre que ça soit aussi à court terme, devenir une force de déstabilisation. Et sachant qu'à côté, nous avons des ingérences étrangères, nous avons des contraintes qui sont imposées par les différents traités, par la Cour de justice de l'Union européenne, par la Cour des droits de l'homme de l'Union européenne, eh bien, on est, je dirais, désarmé, fracturé, avec une polarisation de la société qui, pour moi, est dangereuse et suit le même processus qu'il y a eu au Liban. Ce que j'ai décrit en ligne générale comme point saillant, ce sont les points communs de ce processus que j'ai vu au Liban, que je vois en train de se dérouler en France, même si sur l'espace et le temps, nous ne sommes pas à l'identique. Bien entendu, la France est plus grande, elle a une histoire plus ancienne, mais on voit bien les discordes qui existent aujourd'hui sur le plan social, le plan politique, le plan économique, etc. Donc, nous sommes dans des temps qui, moi, m'inquiètent énormément et pas d'aujourd'hui ou d'hier.
Merci beaucoup, Monsieur Trollier, pour cet échange.
Je vous en prie.
Je remercie également tous nos auditeurs de France Souveraine qui nous écoutent et nous soutiennent. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.